Deuxième de couverture. Une émission proposée et animée par Christine Baron.
Et voilà, c'est la rentrée. On se retrouve avec une quatrième de couverture pleine de bonnes nouvelles. Après un été qui a été, je l'espère, un bel été pour chacun de vous, on va ouvrir notre 33e émission. 33. C'est un vieux truc, ça. Une réplique du célèbre Dr Knock qui aura 100 ans l'an prochain, c'est dire. Une réplique que Jules Romain avait écrite pour le héros de sa pièce, si souvent reprise, et il y a peu encore par Omar Sy, en 2017. Une pièce qui se moquait d'une certaine médecine manipulatrice, où des patients crédules se retrouvaient bernés par un charlatan. Dites 33. Ils ont été nombreux, les écoliers, à jouer en classe les extraits les plus drôles de cette pièce. Et où sont-ils, les écoliers ? Eh bien, de retour en classe, parce que septembre, pour tout le monde, c'est la rentrée. Et pour la quatrième de couverture, ce sera une rentrée plutôt littéraire, ça va de soi. On reviendra quand même sur quelques moments phares de l'été, avant de plonger dans nos piles de livres. On lira quelques pages du récit bouleversant que Lola Lafont vient de publier. On réécoutera quelques bribes de la conversation que nous avions eue l'an dernier à propos de son roman « Chaviré ». Et enfin, on retiendra quelques dates à cocher dans nos agendas de septembre. Alors vite ouvrons notre quatrième de couverture de septembre. La rentrée culturelle est foisonnante, mais que dire de l'été qui a fait oublier les mois et les mois de confinement ? Des festivals ont ouvert leurs portes partout en France et en Normandie, évidemment. De la Grande Escale à Fécamp, qui lançait la saison estivale début juillet en fêtant la mer et ses plus beaux navires, au Festival Béton au Havre, célébrant le chef-d'œuvre d'Auguste Perret sous toutes les coutures, avec des trésors d'imagination, le public a été servi. Chacun a pu trouver le lieu idéal, seul ou en famille, pour profiter de la liberté retrouvée. Des concerts, des spectacles, des visites, des ateliers, tous les goûts étaient dans la nature. Et souvent aux mêmes dates. C'est ainsi que l'été s'est achevé en apothéose. Le dernier week-end du mois d'août, on pouvait fêter le béton au Havre devant une scène rap ou électro, ou suivre des conférences savantes sur l'architecture. On pouvait aussi célébrer les nuits Normandie impressionnistes, de Dieppe à Saint-Lô, de Giverny à Jumièges, pour les 150 ans du tableau légendaire « Impression au soleil levant », peint par Claude Monet au Havre en 1872. Des guinguettes, des lectures, Denis Lavant et le poète symboliste Francis Villégriffin, des concerts, des animations en plein air et un bal très particulier à Deauville, le bal blanc Van Dongen, organisé aux Franciscaines, qui a repris le dress code, tout en blanc évidemment, le temps d'une soirée impressionniste, en hommage aux peintres exposés aux Franciscaines jusqu'au 25 septembre. Et pour les amoureux de musique plus classique, l'Académie Bach offrait ce même week-end de fin d'été des concerts d'orgue ou de clavecin autour d'Arc-la-Bataille et de Dieppe, à l'ombre fraîche des églises. Parce qu'on a beaucoup recherché la fraîcheur en Normandie, accablée plus qu'à l'ordinaire par une météo très ou trop estivale. À présent, la rentrée nous attend, le travail aussi, mais c'est toujours un peu difficile après l'été, même pour la quatrième de couverture. Pourtant, les titres de la rentrée littéraire rivalisent d'encouragement à leur façon. Que reviennent ceux qui sont loin, où le jeune auteur Pierre Adrian revient aux sources de ses étés d'enfant dans la maison qui abritait les vacances familiales. Commencement de Catherine Millet, qui poursuit le récit de sa longue carrière de critique d'art, émaillée d'excès assumés, mais qui ont souvent dérangé. Il faut aussi commencer à écrire, rêver aux étés passés, ou alors inventer. C'est ce que nous propose Miguel, Bonnefoy, qui nous avait émus en 2017 au Festival du goût des autres au Havre, avec sa lecture de son voyage d'Octavio. Il vient de publier « L'Inventeur », consacré à Auguste Mouchot, un scientifique oublié qui détecta au XIXe siècle les pouvoirs infinis du soleil et des étoiles, qui détecta l'énergie solaire avant l'heure. On a été tenté aussi par le titre charmant du roman de Stéphane Carlier, Clara Liproust. Clara, une jeune coiffeuse en Saône-et-Loire, découvre le livre de Marcel Proust par hasard dans son salon, et sa vie en est transformée. On pourrait poursuivre ce jeu des titres de romans de la rentrée 2022 encore un petit moment, parce qu'il y en a presque 500 en lice. De quoi nous donner du courage pour reprendre nos activités ou nous consoler de voir l'été s'en aller. Eh bien, c'est Pomme qui propose cette consolation pour la rentrée. Pomme, la très jeune chanteuse, si originale et si douée, qui nous a souvent enchantés et qui revient avec Consolation, son troisième album, après Les Failles qu'on n'a pas oubliées. Avec sa voix d'ange et sa solide formation musicale classique, elle a toute sa place dans cette rentrée littéraire, puisqu'elle a dédié à la romancière Nelly Arcan une somptueuse ballade sur le fil de l'émotion. Nelly, comme une lettre adressée à cette femme engagée contre toutes les formes de violence. Sa chanson à une romancière, eh bien, en retour, la littérature s'intéresse à la chanson. Ainsi, cette année, Nicolas Mathieu, qui avait reçu le Goncourt en 2018 pour son brillant roman « Leurs enfants après eux », a choisi un titre qui évoque la célèbre chanson de Michel Sardou, « Les lacs du Connemara », pour sa nouvelle fresque sociale dans une Lorraine triste et étouffante. C'est « Connemara », le roman. On n'a pas oublié le tube de Michel Sardou. Et Nicolas Mathieu nous prend au piège. Comme ces personnages qui sont surpris en plein repas de noces par les premières notes. Page 381. Les premières mesures tombèrent, évidentes pour tout le monde. La lente montée, le bruit du vent, les notes de piano, puis les cordes qui flirtaient avec Gershwin.
vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi.
Oui, on n'a pas oublié hein, les tam-tam-tam, etc. La folie, ça se danse, hein, chante Sardou. Et bien pour Nicolas Mathieu, ce tube colle à la peau de ses personnages. Il en tire une analyse cruelle du déclassement social et de l'absence de visibilité des héros de son roman. Ces oubliés qui ont fait de cette chanson leur hymne qu'ils scandent à l'unisson dès qu'ils l'entendent. Quand ils entendent cette chanson, eh bien ça c'est presque le titre du dernier roman de Lola Lafont. Quand tu écouteras cette chanson. Quel titre énigmatique, mais quel texte bouleversant. Roman, récit, autobiographie, témoignage, plaidoyer. On hésite. Parce que c'est tout ça à la fois et c'est magnifique de délicatesse et d'émotion, de retenue et de passion. C'est le moment d'ouvrir le livre de Lola Lafont. L'an dernier, Lola Lafont a été invitée à passer une nuit dans le musée de son choix pour ajouter son nom à la liste des écrivains qui ont accepté la règle proposée depuis 4 ans déjà par les éditions Stock. Choisir un musée, y dormir et publier ce que cette nuit exceptionnelle leur a inspiré. Leïla Slimani à la douane de Venise, Lydie Salvert au musée Picasso, Kamel Daoud, Enki Bilal. Bref, une douzaine de récits très personnels sur une expérience artistique extraordinaire. Lola Lafont, elle n'a pas choisi un musée rempli de chefs-d'œuvre. Elle a choisi un lieu vide, mais plein de souvenirs et de destinées inoubliables, la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Et voilà ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture. Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank dans l'annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre? La nuit, je l'imaginais propice à accueillir l'absence d'Anne Frank, mais je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait, tapie encore, à retrouver. Alors, après avoir lu cette quatrième de couverture, on a ouvert « Quand tu écouteras cette chanson », intriguée, émue déjà. C'est elle. Une silhouette à la fenêtre surgit de l'ombre, une gamine. Elle se penche, la main posée sur la rambarde, attirée sans doute par un bruissement de rire dans la rue, celui d'un élégant cortège de robes satinées et de costumes gris. Elle se retourne, semble héler quelqu'un. « C'est un mariage. Viens, viens voir !» Elle insiste, d'un geste de la main, impatiente. Elle appelle encore, qu'on la rejoigne vite. C'est si beau ce chatoiement d'étoffe, ce lustre des chignons. C'est elle, au deuxième étage d'un immeuble banal, une petite silhouette qui rentre dans l'histoire au hasard d'un mouvement de caméra. Elle est vivante, elle trépigne, celle qu'on ne connaît que figée sur des photos en noir et blanc. Elle a 12 ans, il lui en reste 4 à vivre. Ce sont les uniques images animées d'Anne Frank. Des images muettes, celles d'un court film amateur tourné en 1941, sans doute par des proches des mariés, 7 secondes de vie, à peine une éclipse. Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus la seule jeune fille juive à être si follement aimée. Anne Frank, la sœur imaginaire de millions d'enfants qui, si elle avait survécu, aurait l'âge d'une grand-mère. Anne Frank, l'éternelle adolescente, qui aujourd'hui pourrait être ma fille, a-t-on pour toujours l'âge auquel on cesse de vivre? Mais comment l'appeler? Je dis Anne, mais cette fausse intimité me met mal à l'aise. Je ne peux pas dire Anne, quelque chose m'en empêche, qui, au cours de ma nuit, se matérialisera par l'impossibilité d'aller dans sa chambre. Alors je dis Anne Frank. Comme on fait l'appel, comme on évoque l'ancienne élève brillante d'un collège fantomatique, deux syllabes. La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Je me préparais à être au diapason du vide, à le recevoir. Je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets, au cœur de l'annexe. Une urgence se tenait, tapis encore, à retrouver.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see, oh no, that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I only seen that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands.
On comprendra à la fin du récit le sens énigmatique du titre, bouleversé par la voix de Lola Lafon qui mêle ses propres fantômes à la voix d'Anne Frank, l'adolescente fauchée par l'histoire. En convoquant une impressionnante galerie d'artistes, des photographes, des cinéastes, écrivains, plasticiennes, elle se dévoile comme jamais, elle se livre par vagues et trouve dans l'intimité de cette chambre le sens de toute son œuvre. En attribuant enfin à Anne Frank le titre d'autrice, elle restitue à la jeune fille la place qui donnait un sens à ses souffrances. Écrire, être publié, être lu, écrire pour vivre, pour survivre. Et en poussant la célèbre bibliothèque qui cachait l'accès à l'annexe, Lola Lafon est symboliquement passée au-delà du réel, au-delà des livres. Grâce aux livres, grâce à l'écriture, la sienne et celle d'Anne Frank, leur vérité se trouve dans les mots qui remplissent les pages d'un roman ou d'un journal. En passant ainsi de l'intime à l'universel, elle rend Anne Frank à la littérature dans ce texte délicat et bouleversant. Elle dessine aussi les contours de son propre passé, de ses origines, de son histoire familiale, toujours tue, encouragée par la présence, dans ses pièces vides, de la pâle jeune fille aux cheveux sagement retenus d'une barrette, assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. Une jeune fille qui rejoint toutes les héroïnes de Lola Lafon, qui sont toutes empêchées, contraintes, qui cherchent toutes à se faire entendre. Patricia Hearst, séquestrée, Nadia Comaneci, la gymnaste embrigadée, ou Cléo, la petite danseuse d'arrière-plan de son roman chaviré. Et en janvier 2021, Lola Lafon était venue au festival Le Goût des Autres au Havre pour faire une lecture musicale sans public à cause du confinement, une lecture de Chaviré. Et on a eu la chance de la rencontrer pendant les répétitions de son spectacle.
Bonjour. Bonjour Lola Lafont.
Bonjour Christine Baron.
Merci de nous accorder cet entretien juste avant de répéter la lecture musicale de votre dernier roman, Chaviré, dans le festival littéraire Le Goût des Autres. Alors quand on fait une lecture musicale de son propre roman, est-ce qu'on se sent plutôt auteur, comédienne, musicienne ?
On se sent peut-être comédienne parce que on lit devant un public, alors il peut être virtuel, mais quand même il y a des gens. Et donc il faut quand même faire passer le texte, il faut le projeter beaucoup plus. Et je me sens lectrice plus qu'écrivaine parce que je redécouvre des passages du roman. Donc parfois je suis étonnée de certains passages quand je les lis, encore.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a un temps, un décalage énorme entre le moment où vous l'avez conçu, écrit et le moment où vous l'interprétez.
Oui, parce que les dernières corrections, c'était au printemps, c'était en avril et voilà, c'est déjà un peu loin en termes de certains passages. En tout cas, je les ai un peu oubliés.
Oui, je comprends. Et justement, je me demandais, est-ce que quand on reprend son texte avec sa propre voix, est-ce qu'on le recrée pas finalement ? Vous dites vous le découvrez, mais on le recrée peut-être aussi un peu ?
Ah oui, tout à fait. On recrée déjà le texte, le roman, puisqu'évidemment pour une lecture, je choisis quelques passages et j'ai à cœur de recréer une sorte de narration pour que les gens qui viennent puissent vraiment suivre. Donc je recrée une histoire en éliminant des pans entiers de Chaviré, des personnages, c'est un choix. Et donc je fais tout à fait un autre choix que pour le roman.
Oui, finalement. Donc c'est ça, c'est bien une recréation.
Ah oui,
finalement. Voilà, et donc même quand on l'a lu, et c'est pour ça qu'on a tant de plaisir aussi à assister, quand on a lu le roman, on est aussi embarqué encore une fois autrement, quoi, c'est ça ?
Mais j'espère, oui, parce que l'idée, c'est. Et puis la musique ajoute tout à fait autre chose. Là, je travaille avec Sylvain Griotto au piano, qui lui joue souvent, enfin très souvent, avec Rosemary Stanley et Olivier Lambert, qui est un coutumier des lectures musicales. Et quand même, il recrée une ambiance qui est évidemment tout à fait autre chose que.
Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait. Je me disais, dans quelle mesure, quand on fait une lecture musicale, on n'est pas un peu dans une construction cinématographique où la musique fait une sorte de bande-son, mais est-ce qu'elle est plutôt là pour... puisque vous choisissez aussi, j'imagine, bien sûr, c'est un travail commun, mais est-ce que la musique est là pour souligner, pour expliquer, pour accentuer ?
Alors, on essaye de que ça ne fasse pas, effectivement, trop redondant parfois. Donc, il y a, par exemple, dans la lecture musicale, il y a un moment qui est toujours que j'aborde avec un peu d'appréhension parce que j'ai peur d'être embarquée dans l'émotion, surtout sur Chaviré, qui est finalement le moment où le personnage de Cléo va raconter à son amoureuse Lara ce qui lui est arrivé quand elle avait 13 ans. Et j'ai choisi de le lire. Et on s'est dit qu'on mettrait pas de musique parce qu'on voulait pas appuyer l'émotion. En revanche, c'est un grand plaisir que le pianiste puisse jouer le thème de Champs-Élysées.
Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission préférée de sa mère. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseuses qui vont bientôt quitter le plateau. Cléo s'approcha du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ces refrains de joie qu'ils concluaient d'un bond très très loin de l'affectation des domitilles chez Madame Nicole. Voilà, c'est ça qu'elle voulait faire.
La suite de cet hebdo avec Lola Lafont est à retrouver dans les podcasts de Radio Albatros, l'hebdo, la quatrième, semaine 5, en 2021. Et en septembre, quoi de neuf en septembre ? Qu'est-ce qui nous attend ? Mais peut-être la lecture de quelques-unes des 500 nouveautés de la rentrée littéraire. Ou alors des balades insolites le week-end du 17 septembre dans tous les lieux qui offriront plein de surprises pour les journées européennes du patrimoine. Ou alors, on retournera peut-être au cinéma, parce que septembre a commencé sous les sunlights de la Mostra de Venise à Deauville pour son festival du film américain. Tapis rouge, vedette, avant-première, exclusivité, les paillettes étaient sur les planches et la quatrième de couverture était là. La belle vie, quoi.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, à avoir ce prix ce soir?
Oh, I thought I'm old.
You know, je suis vieux.
You know, so, you know, where they show your other movies, there's something I felt, oh my God, I always thought I was the young person, you know, always. And oh, wow, it feels old. And then secondarily, what an honor, what an amazing, you know, what an amazing thrill to come to such an illustrious festival with, you know, you grow up thinking France and French cinema is the pinnacle of the art. So to have you know, a festival that celebrates American independent films and to come here with the movie I made is just the complete you know, honor.
Voilà, je suis vraiment très très honorée. Déjà, bien sûr, la France pour moi c'est depuis toujours le summum du cinéma. Donc de pouvoir être ici dans ce festival où on rend hommage au cinéma indépendant, ça me touche beaucoup. Et aussi, bien sûr, quand j'ai appris que j'allais avoir ce prix, je me suis dit, wow, je suis pas assez vieux pour avoir ça. Just to wrap up, Jesse, when you shot the movie with Clémence and with Felix, what was it like for you to have this sort of French experience? C'était comment pour vous cette expérience française quand vous avez travaillé justement avec Clémence Poésie et Felix Moati?
On n'a pas oublié son rôle en 2010 dans The Social Network où il interprétait Mark Zuckerberg, le jeune étudiant surdoué qui a inventé Facebook. Et en 2016 aussi, Jesse Eisenberg a joué Bobby dans le film très autobiographique de Woody Allen, Café Society. Acteur aux multiples talents, Jesse Eisenberg était donc présent à Deauville pour présenter cette fois son premier film en tant que réalisateur dans le cadre du Festival du film américain en septembre.
Ok, if the photographers are good, Jesse, wait, come back. Just a quick word before you go on your movie. Just quelques mots sur le film quand même que vous allez découvrir ce soir. Clément, stay, it's okay. Ok.
On était donc là pour découvrir When You Finish Saving the World, un film qui illustre les tensions familiales exacerbées entre un adolescent passionné de musique, Ziggy, et ses parents, un père à côté de la plaque et une mère plus préoccupée de sauver les pensionnaires de son foyer d'accueil que son propre fils. Et c'est Julianne Moore qui interprétait la mère de Ziggy, elle qui, au même moment, la même semaine, présidait à Venise un autre festival de cinéma, la Mostra, pendant que nous étions à Deauville, tout près des planches. Si le héros du film de Jesse Eisenberg passe son temps à écrire des chansons et à les diffuser sur le net, peut-être que c'est un clin d'œil du réalisateur à son rôle dans The Social Network. La musique et les chansons ont occupé une belle place à Deauville. En effet, l'une des avant-premières a permis aux festivaliers de découvrir un documentaire original consacré à la chanson célèbre de Leonard Cohen qui a connu de multiples adaptations au cinéma ou ailleurs. C'est Alléluia. Depuis 1984, les reprises n'ont fait qu'affirmer la charge émotionnelle de cette chanson. Bob Dylan qui la sort de l'anonymat, John Cale, Jeff Buckley et puis la bande-son de Shrek au cinéma. Nous, on devra attendre le 15 octobre pour voir ce documentaire dans les salles. Alléluia, les mots de Leonard Cohen. On attendra le mois suivant pour écouter le prochain album de Iggy Pop, le punk héros inoxydable qui, de sa voix inimitable, va revisiter d'autres classiques, ceux de la chanson française. Syracuse, de Salvador, Les Passantes, de Brassens, La Vie en Rose, de Piaf, La Belle Vie de Sacha Distel. Quand tu écouteras cette chanson, disait Lola Lafont, c'est vrai, les chansons nous emportent souvent très loin dans nos souvenirs et réveillent des émotions inaltérables grâce à ces reprises sensibles. Les chanteurs qui reprennent la chanson d'un autre lui rendent hommage, écrit Lola Lafont. Eh bien, les écrivains ou les cinéastes qui s'en emparent aussi. Et si les chansons de votre enfance vous charment encore, vous pouvez découvrir à Rouen une exposition qui les met à l'honneur. Eh bien, chantez maintenant, c'est le titre. Et c'est jusqu'au 5 mars, au Musée national de l'éducation, installé dans la jolie rue Aude Robeck à Rouen. une invitation à visiter un musée consacré à l'école, aux écoliers studieux, aux enfants. Eh bien, on est tout à fait dans le thème de la rentrée. Et en chanson, en plus. C'est la belle vie, non? Et on va se quitter, en attendant les reprises d'Iggy Pop, avec une version originale, celle de Sacha Distel, en 1964.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai.
Allez au cinéma, précipitez-vous dans les librairies. Nous, on sera là, on se retrouvera début octobre. Merci Joanne, toujours aux manettes, et merci Lola Lafont pour tout.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.